Vous souhaitez vous changer les idées, pourquoi ne pas le faire par le livre? Et si vous n'avez pas d'idées, en cette période de rentrée littéraire, Christelle et Sylvain, libraires indépendantes à Saint-Gaudens, vont vous aider dans votre choix parmi les 461 livres qui sortent à cette occasion. Ils ont compté d'ailleurs les livres, 461. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Et nous débutons avec vous Christelle, avec ce livre de Ian McGuire, White River.
Exactement, et effectivement, et on va partir loin. Alors, White River, aux éditions Rivage Noir, une des sorties de cette rentrée littéraire. Et alors, un gros coup de cœur pour ce grand roman d'aventure. Alors, vous voyez, je change un peu d'horizon par rapport à mes précédents choix des deux semaines passées, puisque là, effectivement, comme je vous disais, un gros coup de cœur pour un grand roman d'aventure avec des chercheurs d'or, des Indiens autochtones, une nature aussi belle que dangereuse et en même temps un roman historique, haletant et fort documenté. Alors, on part pour le Grand Nord canadien à l'hiver 1766. Et à cette époque-là, eh bien, quelques colons anglais sont installés dans la baie d'Hudson. Alors, je vous conseille de regarder sur une carte et vous verrez un peu où ça se situe et l'étendue du territoire. Et donc, sur ce territoire, eh bien, les colons anglais font le commerce, notamment de peau, avec quelques trappeurs et des Indiens. Et durant cet hiver particulièrement rigoureux, arrive dans la colonie un colporteur en guenilles qui arrive au comptoir de la compagnie avec la promesse d'un filon d'or qui se trouverait alors bien plus au nord encore, au-delà de la White River. Et c'est là qu'on va découvrir les principaux personnages, puisqu'on va avoir le gouverneur du fort, qui s'appelle Magnus Norton, qui est un homme extrêmement cynique et obsédé par la richesse. Et en voyant cette pierre avec quelques traces d'or, eh bien, il décide d'organiser en secret une expédition extrêmement périlleuse pour s'emparer de ce filon d'or et l'exploiter non pas au nom de la compagnie mais pour son propre compte. Alors il doit trouver des hommes sûrs pour cette expédition. Il y aura donc son adjoint John Shaw, son neveu Abel Walker, facile à manipuler, et Tom Hearn, un solitaire, un homme au passé parfois un peu secret, un ancien baleinier, et il y aura également une famille d'Indiens autochtones pour les guider, d'Assantil, le chef, sa femme, Popit, son fils, Nabaya, et sa compagne Kissik. Et donc tous les deux partent dans le Grand Nord vers la promesse d'un Eldorado. Alors, j'en dirai pas plus. Que se passera-t-il? Beaucoup de choses. Je vous laisse bien évidemment le découvrir. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un grand roman d'aventure, tout en maîtrise, qui saura vraiment ménager le suspense jusqu'à la fin. L'histoire, elle s'installe petit à petit. Je trouve que ça, c'est assez réussi. Ça prend son temps, ça se dévoile avec parcimonie, tout en maintenant quand même un certain rythme avec, au fil des pages, eh bien, de nombreux rebondissements. Les aventures seront nombreuses, ainsi que les dangers, car la nature, comme je disais, elle est aussi fascinante qu'hostile, et cette nature est vraiment omniprésente. Et donc l'histoire est aussi vraiment fortement documentée sur la période, sur le lieu et sur les autochtones qui y vivent. Mais au final, c'est bien l'homme qui est au cœur de ce récit, hein, puisque l'auteur dresse un portrait précis et intime de chaque personnage, tout en les laissant évoluer au fil des pages. Il y décrit magnifiquement la cruauté, l'assujettissement, la violence, notamment la violence faite aux femmes, et les dérives du pouvoir. Alors, qui d'entre eux restera lucide ? Là aussi, mystère. Donc un grand, grand roman, très réussi, une plume fluide, vraiment, on ne le lâche pas. Un style immersif qui nous propose un véritable voyage littéraire dans le Grand Nord. Et c'est aussi un grand roman sur la cupidité des hommes et un tableau sans concession sur la colonisation aveugle et brutale. Alors, comme le dit parfois Sylvain, je vais le copier, laissez-vous vraiment embarquer voilà, dans ces contrées lointaines. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Avec White River aux éditions Rivage Noir, Ian McGuire avec une couverture, peut-être la couverture la plus réussie de la rentrée.
Rentrée toujours, rentrée littéraire. Merci Christelle. Avec le 7e siffleur de Colaniel.
Alors oui, je vais vous parler en fait, là aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur et d'une autrice que j'ai eu grand plaisir à retrouver. Vous savez, c'est des auteurs et autrices que j'avais déjà lus, que j'aime beaucoup et que vous avez plaisir à retrouver. Et dans les deux cas, vous allez voir, ce sont des coups de cœur parce que voilà, ce sont des auteurs qui réussissent au fil des livres à on crée une fidélité. Alors, vous savez, c'est un peu l'impression de retrouver des amis. C'est ce que j'aime hein, quand vous aimez un auteur. Je crois que c'est Marcel Proust qui disait « La lecture est une amitié ». Marcel Proust ou Donald Trump, je ne sais pas. Non, je crois que c'est plutôt Marcel Proust. Hein. Donald Trump, il ne sait pas lire. Il vaut mieux en rire tellement cet homme est triste. Mais voilà, non, c'est bien Marcel Proust qui disait « La lecture est une amitié ». Alors, je vais vous parler du premier livre aujourd'hui, donc, qui est « Le 7e siffleur » de Colaniel aux éditions du Seuil. Alors, d'abord, une petite question, Eric. Est-ce que vous connaissez le Courlis André ?
Pas du tout.
Pas du tout. Eh ben moi non plus. Et maintenant, je le connais. Alors, le Courlis André, c'est un échassier. C'est un échassier qui vit dans différentes régions du monde parce qu'il migre. Il est malheureusement en danger d'extinction. Et pour nous parler de cet animal qui est quand même un petit peu le personnage central, il y en a plein d'autres, mais qui est quand même vraiment le personnage central de ce livre, Colaniel va nous raconter trois histoires. Il va d'abord nous emmener dans les Highlands écossais, où là, on va découvrir une femme, Fiona, qui est mariée à un agriculteur, qui a un fils, et qui va se laisser convaincre par une naturaliste anglaise qu'il faut aider cet animal pour lui préserver son milieu parce qu'il vient nicher en Écosse. Alors, elle va essayer, pourtant dans un milieu un peu hostile, de faire quelque chose pour cet animal. Autre théâtre d'opération, on va aller dans la baie de Somme, où là, on va faire la connaissance de Willy. Alors, Willy, il est chasseur. Il est chasseur et il est passionné par la chasse des oiseaux, d'eau, et notamment le courlis André. Et alors, on le voit en pleine déconfiture parce qu'il essaye de convaincre son fils de venir à la chasse avec lui. Et son fils conteste sa passion et trouve que c'est d'un autre âge, cette pratique de la chasse. Troisième théâtre d'opération, on est au Maroc et là on suit un jeune homme, Hamza, qui vit et travaille avec son père et dont l'occupation est d'accompagner les touristes dans la région où il est du Maroc et notamment qui est une région d'observation pour les oiseaux migrateurs. Et ce Hamza, il travaille, vit là, mais il rêve surtout d'ailleurs et il a envie faire le chemin inverse et suivre le chemin inverse des oiseaux qu'il aide à observer. Donc vous l'avez compris, un roman foisonnant avec plein de personnages qui est passionnant parce qu'il nous raconte une histoire et vous suivez vraiment ces personnages dans différents chapitres et vous êtes vraiment à leur côté. Et en même temps, et c'est la grande qualité du livre, Colaniel nous pousse ou nous invite à nous interroger sur la place du vivant, sur le dérèglement climatique et la résilience des êtres vivants, humains et animaux, dans cette nouvelle réalité. Et vous voyez, quand vous lisez ce roman avec l'été que nous venons de connaître, forcément, ça résonne et c'est très pertinent. Donc, Effectivement, est-ce que dans ce roman, il nous donne peut-être même quelques clés pour nous réconcilier avec la nature et avec le monde ? C'est ce que l'on apprend en lisant plus avant. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman qui est vraiment fort, qui est très romanesque. Hein. Vous suivez les personnages et vous avez vraiment envie de voir quelle va être leur destinée, comment ils vont évoluer. Et puis, j'allais dire, inspirant par les thèmes qu'il aborde. Donc vraiment, je vous invite, c'est une très très belle sortie de cette rentrée littéraire. Donc le 7e siffleur de Colin Niel aux éditions du Seuil.
La baie des baleines pleines, la fugue de Marat de Frédéric Blue. Mon petit doigt me dit que Frédéric Blue va venir vous rendre visite ici à la librairie indépendante.
Et oui, votre petit doigt, plein d'informations, Eric. Alors oui, effectivement, donc la rentrée littéraire, c'est aussi la littérature jeunesse qui, pour moi, reste toujours... une bulle d'oxygène, une parenthèse d'émerveillement. Et c'est vrai que ce premier roman, un roman destiné aux jeunes ados, ce premier roman de Frédéric Blue, effectivement, que l'on connaît, hein, qui habite notre territoire, eh bien, ce premier roman, donc La baie, je vais aller jusqu'au bout quand même, La baie des baleines pleines, La fugue de Marat, donc aux très belles éditions Hélium, avec une magnifique couverture en illustration réalisée par Claire Debray. Eh bien, cette baie des baleines pleines, un premier roman jeunesse, eh bien, c'est un gros, gros coup de cœur parce que c'est un premier roman que je trouve maîtrisé, réussi, qui peut se lire comme un conte, comme un roman d'apprentissage, et qui prendra donc les jeunes lecteurs audacieux par la main et les embarqueront dans la grande aventure de Marat. Alors Marat, c'est une jeune fille que l'on va suivre tout au long de ces pages, qui part à la recherche de son frère adoré, Marin, qui a disparu. Et Marat, elle est guidée par les carnets que Marin a laissé derrière lui. Et tout au long de son périple, eh bien, elle va découvrir, au fil des pages, une nature sauvage, ainsi qu'un peuple proche de la mer. Alors, un lien très fort, on comprendra petit à petit, unit le frère et la sœur. Et d'ailleurs, et on le demandera à l'autrice, ici, peut-être, il y a-t-il un petit clin d'œil à un livre d'une certaine Carole Martinez. Alors très vite, je ne vous le cache pas, on s'attache à cette jeune Marat, cette jeune fille rousse. On voit d'ailleurs sur la couverture ses longs cheveux, ses longues jambes. Et Marat, elle marche d'un bon pas à travers la campagne, malgré le froid et la pluie. Et dans cette aventure, dans cette recherche, elle va pas être seule. Un vieil ermite, Padrec, va aider Marat dans sa recherche, car il va lui falloir traverser quand même de périlleuses tourbières. Alors encore une fois, c'est vraiment un immense bonheur que de suivre Marat avec des chapitres qui sont dédiés au carnet de Marin, comme ces petits cailloux qu'elle laisse. Hein. Un carnet alors plein d'odeurs et de parfums qui porte un regard tellement délicat sur la nature et le vivant. Un carnet plein de poésie qui offrira aussi des pistes d'explication au départ de Marin. Alors là aussi, j'aurais envie de vous dire, embarquez vos ados avec Marat pour ce très très beau premier roman de Frédéric, très beau roman d'apprentissage, plein d'écologie, plein de poésie, de respect du vivant. Donc vraiment une belle, belle réussite que La baie des baleines pleines, La fugue de Marat aux éditions Hélium.
Et Frédéric Blue vient à quelle date ici à la librairie ?
Alors, on aura le plaisir effectivement d'accueillir Frédéric le jeudi 17 septembre à partir de 19h30 pour un peu la soirée de rentrée de l'indépendante. Une soirée, en fait, avec deux événements. Donc, un événement lié à la rencontre avec Frédéric et puis un autre temps dédié, en fait, à la présentation de la rentrée littéraire. Pas les 461 livres, hein, bien sûr, mais en fait une sélection de nos coups de cœur et puis bah, peut-être aussi des coups de cœur des personnes qui auront l'envie d'être parmi nous voilà, et de partager ces coups de cœur. Alors, à noter qu'exceptionnellement, effectivement, cette soirée se fait sur réservation auprès de la librairie.
Merci Christelle. Un marché noir de Bérénice Pichat, Sylvain.
Tout à fait. Et là aussi, l'impression de retrouver, c'est pas l'impression, hein, on retrouve une autrice qu'on aime beaucoup, puisque, pour rappel, donc Bérénice Pichat, elle nous avait émerveillés avec son premier roman, La Petite Bonne, qui était paru il y a 2 ans, je crois, et qui a eu le prix des libraires en 2025. D'ailleurs, prix des libraires, on avait voté pour ce livre lors du prix des libraires. On était très, très heureux qu'elle ait gagné ce prix. Et là, j'allais dire, deuxième roman, Un marché noir, qui vient de sortir, que j'ai lu cet été. Et pour moi, elle confirme complètement son talent et son originalité avec ce nouveau roman. Alors là, on change de décor et on change d'histoire. Avec Un marché noir, on est dans le Paris occupé de 1943 et on va suivre principalement deux personnages. On va suivre une jeune fille, une très jeune femme qui s'appelle Servane et Paul, qui est un homme plus âgé, qui tous les deux ont comme point commun de faire du marché noir. Alors, ils ont, autant vous dire, des profils et des motivations très différentes. Servane, c'est une toute jeune fille, elle a 17 ans, elle travaille dans un commerce et elle vit avec son père qui est veuf et ils vivent très très modestement. Donc dans ce Paris avec des restrictions et des privations, elle va surtout chercher à survivre et à améliorer son quotidien. Paul, lui, il a un profil complètement différent. Il souhaite, lui, gagner beaucoup d'argent et très vite. Alors, comment il s'y prend ? Très rapidement, on est dans une période en 43 où vous avez des gens qui fuient Paris, notamment des personnes juives, parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Et donc, il va profiter de la fuite de ces gens pour leur racheter des biens, commerces, appartements, cave à des prix absolument dérisoires et il va faire le commerce de ces choses. Donc on est sur un personnage un petit peu qui est un peu inquiétant. Et les chemins de ces deux personnages vont se croiser dans un récit qui, au fur et à mesure, donc, va devenir de plus en plus haletant et va vraiment vous tenir en haleine puisque les deux vont se croiser et après, vraiment, il y a des épisodes dont je ne vais pas parler, il faut le découvrir en le lisant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. À nouveau, elle a un talent, un réel talent pour vous révéler des personnages et une réalité par des touches vraiment subtiles. Et là, dans ce cas, pour moi, principalement, la qualité de ce récit, c'est que elle explore véritablement la frontière souvent ténue entre le bien et le mal. Et elle vous amène à vous interroger sur vous-même ou sur les autres, sur les individus, lorsque nous sommes confrontés au danger et à l'adversité, comment réagissons-nous ? Est-ce que nous sommes par héroïsme, compromission ou bien souvent un peu un mélange des deux ? Et c'est cette zone grise qu'elle explore et je trouve ça passionnant. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce livre qui est assez court, hein, comme le précédent, La Petite Bonne. Et comme le précédent, vous allez découvrir une forme littéraire vraiment qui est particulière à cette autrice et que moi je trouve très séduisante parce que dans La Petite Bonne, elle avait mélangé prose et poésie et là, elle mélange deux personnages au début en parallèle puis qui vont se... Et surtout, les chapitres sont entrecoupés d'une correspondance de lettres et au début, vous vous demandez ce que font ces lettres et au fur et à mesure du récit, vous allez comprendre la signification de ces courriers. Je trouve ça très virtuose et je trouve ça très agréable comme lecture. Donc vraiment, je vous engage à, si vous n'avez pas lu La Petite Bonne, découvrir, mais surtout découvrir ce second roman qui pour moi est une confirmation. Donc vraiment, j'ai à cœur de le faire découvrir. Donc Un marché noir de Bérénice Pichat aux éditions Les Avrils.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à la librairie indépendante à Saint-Gaudens.